Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Cube Radio.
Bonsoir tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de podcast Pays sur Start. Mon nom est Lemu, je suis en compagnie de Kasi.
Allô!
Comment ça va? T'as une belle journée, toi, aujourd'hui.
Ah, j'ai eu une très belle journée, remplie de rebondissements.
Exact. Et Raphaël aussi a eu une belle journée.
Ben oui, c'est toujours des belles journées avec vous autres.
Oh, c'est vrai. Alors, chaque semaine, on traite de différents sujets de l'actualité qui ont fait vibrer le monde geek et gaming. Puis à la fin du podcast, on lance une question à débat ouvert qu'on discutera ensemble avec vous sur Discord si vous écoutez le podcast en différé et avec les gens dans le chat de Twitch parce qu'on vous le rappelle, le podcast est enregistré en direct sur twitch.tv/paysurstart. Donc sans plus tarder, on débute cet épisode du 21 octobre avec le segment « C'est quasiment de l'actualité ». Kasi, cette semaine, il y a un événement assez incroyable qui s'est déroulé sous nos yeux en direct.
Ouais, sur Twitch, il s'est passé quelque chose d'assez phénoménal. Moi, je suis beaucoup les vedettes qui débarquent sur Twitch pour voir comment que la plateforme fonctionne, comment ils peuvent promouvoir leurs choses sur la plateforme, mais aussi les politiciens. Il y a des politiciens qui ont commencé à utiliser Twitch depuis un certain moment, puis hier, on a vu Alexandria Ocasio-Cortez qui débarquait sur Twitch hier. C'est pas sa première fois complètement sur Twitch, mais c'était sa première diffusion. Puis au lieu de faire comme la plupart des politiciens qui sont sur Twitch, elle a, au lieu de juste jaser avec le monde, elle a carrément joué à Among Us avec plein de vedettes du web gaming. Puis c'est vraiment, elle a vraiment atteint des chiffres intéressants. Tu sais, on n'en parlerait peut-être pas si elle n'avait pas atteint des gros chiffres, mais elle a vraiment frôlé les records. Fait que c'est ça qui est intéressant avec Alexandria. Premièrement, on sait qu'elle est plus jeune que nous, guys.
Elle a 31 ans.
Elle est plus jeune que nous. Fait que tu sais, comme déjà, tu sais, bon, c'est comme la Millennial Cool. Bon, on sait que, bon, pour ceux qui ne savent pas c'est qui, c'est une représentante au Congrès américain. Très appréciée des millennials puis de la génération Z. Et puis, elle a décidé, lundi, cette semaine, elle a tweeté en soirée « J'ai le goût de jouer à Among Us sur Twitch, qui voudrait jouer avec moi? » Évidemment, bon, beaucoup de vedettes du web se sont manifestées. Et elle a décidé hier de finalement vraiment, comme c'est vraiment sur un coup de tête là, qu'elle a décidé d'enfin faire une diffusion gaming sur Twitch, fait qu'elle a comme trouvé son matériel en une journée.
C'est incroyable.
Et puis, elle a fait son setup, puis tout ça. Puis vraiment, ça paraissait qu'elle était à l'aise. Ça paraissait que c'était elle qui gérait ses scènes, puis tout. Là. Puis ça se passait super bien, elle avait des animations, puis tout. Et puis, elle était accompagnée de grands noms. Là. Elle a joué avec Pokimane. Moi, j'appelle Pokimane, je sais pas si c'est Pokimane, je sais pas comment qu'on dit, mais c'est la fille de Twitch, là, que tout le monde connaît. Et puis, elle joue aussi avec Jacksepticeye, quand même. Donc, elle était vraiment comme très bien entourée pour cette diffusion-là. Et puis, elle a joué Among Us pendant... Moi, je m'attendais... Quand elle a annoncé ça, je faisais comme, OK, c'est un stunt, c'est sur Twitch, bon... Mais elle a fait une diffusion de presque 4 heures.
C'est incroyable.
Donc, ça, c'est le premier chiffre que je trouve intéressant. Elle a joué 3 heures et demie solide. Solide. Elle a commencé, elle a parlé un petit peu. Oui, c'était pour promouvoir... pour encourager les jeunes d'aller voter. Pas juste les jeunes, mais la population Twitch, mettons, d'aller voter. Mais elle a vraiment fait très peu d'interventions qui avaient rapport avec le vote. À la fin, au début, oui, un peu pendant, les personnes avec qui elle jouait, ils ont participé aussi à cette idée-là, avec cette mission-là, mais c'était vraiment pas... c'était vraiment pas présent tout le long de la diffusion. Là. Elle a vraiment joué à Among Us. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a atteint les 426 000 vues live. Donc, il y avait 426 000 comptes qui regardaient sa diffusion en direct, des gens qui étaient connectés à Twitch ou pas, mais les gens regardaient comme ça. Donc, elle fait partie comme des 20 diffusions les plus vues quand on parle d'un compte qui est détenu par une personne, par un individu et non une marque. Tu sais, mettons comme les Riot Games, Ubisoft, PlayStation, bon, c'est sûr qu'ils vont avoir des plus gros chiffres, eux autres, quand ils font leurs annonces puis tout ça, mais l'individu qui a encore le plus grand stream, il n'a pas encore été dépassé, c'est Ninja, qui, je pense, c'est il y a 2 ans déjà, peut-être presque 3 ans quasiment, ça fait longtemps,
ouais.
Quand il a fait sa diffusion avec Travis Scott et Drake, il a joué à Fortnite, puis il y avait, eux autres, il y avait quasiment fait planter le site, là. C'était énorme,
ouais.
Mais elle s'est rendue vraiment pas loin derrière. Elle s'est rendue à 426 000. Eux autres, je pense qu'ils étaient comme à 600 000.
607 000, ouais, quelque chose comme ça, ouais.
C'était 635 000. Fait qu'elle est vraiment pas loin derrière. Elle est vraiment pas loin derrière. Fait que c'est quand même... Il y a ça qui est impressionnant. Mais, comme je disais, c'est pas la seule politicienne à débarquer sur la plateforme Twitch avec l'intention de promouvoir un peu sa carrière politique. Tu sais, veux pas, c'est un peu... c'est toujours un peu promotionnel, Twitch, on va se le dire, hein. Le premier qui est débarqué sur Twitch, les gens pensent souvent que c'est Bernie Sanders, mais ce n'est pas Bernie Sanders. C'est Andrew Yang, avec la Yang Gang, qui est embarqué sur Twitch la première fois. Lui, c'était en 2018 qu'il est embarqué sur Twitch. Il a diffusé un peu plus tard, puis il a diffusé quand même jusqu'à genre mars, jusqu'à octobre 2019. Fait qu'il a diffusé quand même longtemps sur Twitch. C'est juste qu'il n'avait pas attiré des gros chiffres. Lui, ce qu'il faisait, c'était des just chatting puis des IRL, ou est-ce qu'il faisait des sessions où est-ce qu'il répondait aux questions du public, des trucs comme ça. Bernie Sanders est live en ce moment sur Twitch. Fait que ça vous donne une idée. Bernie Sanders, lui, il a rejoint le site en 2019, puis il a pas arrêté. La première diffusion qu'il a faite, c'était lors de du premier débat de démocrate. Donc, c'était comme, il faisait comme des commentaires, tout ça. Et puis, après ça, il a continué à diffuser. Et là, je dirais qu'il fait environ, selon Twitch Stats, là, le site que j'utilise pour un Twitch Tracker, il fait environ 3,5 diffusions par semaine. C'est quand même énorme, puis je dirais que c'est même plus que pain sur stand. Donc, c'est ça. Mais quand je dis Bernie Sanders qui diffuse, c'est le compte de Bernie Sanders. C'est pas tout le temps lui qui est là. Donc, souvent, c'est des gens dans son équipe qui vont diffuser. Il parle de tout. Il parle de ce qui se passe dans les médias. Donc, je pense à la politique qui se passe aux États-Unis. On sait qu'en ce moment, on est très, très près de l'élection américaine. On est à une semaine près, quasiment.
Oui.
Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent en politique en ce moment. je pense notamment à une photo de Borat, le film. Ben, bon, on va en parler la semaine prochaine quand tu vas être sorti. J'ai très hâte de vous en parler.
Oui.
Mais c'est ça, non, Ocasio-Cortez qui est vraiment débarqué sur Twitch avec aplomb. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle débarquait vraiment, elle n'était pas aveugle quand elle débarquait. Là. Tu sais, elle connaissait très bien le jeu. Elle a même écrit, elle écrit Orange is Sus.
Oh, man.
Dans son tweet. Orange is Sus, on s'entend que c'est clairement une référence. En plus d'être une référence à Among Us, c'est clairement une référence au fait que Donald Trump a le teint un peu orangé, on va se dire. Puis tout le long, il disait Orange is Sus, Orange is Sus, we have to vote him out. C'était vraiment très, très drôle. Il y avait beaucoup de références. Non, t'sais, des références un peu indirectes à Donald Trump. C'est que c'était quand même fascinant, mais aussi, elle était quand même bonne. C'est ça qui est quand même. Elle était bonne.
Oui.
Elle était très, très bonne dans le rôle d'imposteur. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire sur elle, mais moi, j'ai trouvé ça très, très intéressant. Il y a beaucoup de clips qui circulent. D'ailleurs, vous pouvez voir sur bester.com. On a un article avec un peu un récapitulatif de ce qui s'est passé avec cette diffusion. En plus, il y a quelqu'un qui m'a envoyé cette vidéo-là, c'est un Québécois qui a fait une vidéo des 10 moments forts de la diffusion, où est-ce qu'on voit on la voit en pleine action, et elle est très, très bonne, pas mal meilleure que moi à ce jeu-là. Puis, tu sais, il y a quelqu'un dans la diffusion qui a dit, un des streamers qui participait, il a dit, on a peut-être joué à Among Us avec la prochaine présidente, pas la prochaine, mais une éventuelle présidente des États-Unis. C'est quand même gros. Fait que moi, je trouve ça bien intéressant. Peu importe où est-ce que vous vous trouvez dans la sphère politique, de toute façon, c'est la politique américaine, c'est pas notre politique à nous. C'est quand même intéressant de voir les politiciens millennials s'intéresser à Twitch. Et non, millennials, on s'entend que Bernie, il n'est pas moins millennial que ça.
Non, c'est ça.
Et pourtant, il s'est intéressé à la population Twitch. On s'entend que c'est un public très important, très imposant, Twitch. C'est beaucoup, beaucoup de gens qui participent. Donc, c'est une stratégie très intéressante. Moi, je pense que c'est peut-être quelque chose qui va inspirer d'autres politiciens dans le futur et qui sait, peut-être des politiciens québécois, canadiens.
Je l'espère, pour vrai, parce que c'est une très, très belle influence à avoir sur un peuple qui peut voter, ou qui va voter, ou qui va voter dans les prochaines années. Là. 300 000 c'est ça, personnes, c'est rien. C'est pas quelque chose de petit, là. C'est 300 000 personnes qui ont entendu aller voter.
C'est ça, qui ont entendu aller voter aussi, qui ont reçu un peu tout au long de la diffusion des liens pour savoir comment être sûr qu'on est enregistré, des trucs comme ça. C'est un peu tard, je trouve, dans l'élection américaine de 2020. C'est un peu tard. Là, en ce moment, on sait qu'ils ont déjà commencé à voter dans certains États. Fait que je trouve ça dommage un peu qu'elle ait eu cette idée-là un peu tard. Mais d'après moi, c'est parce qu'elle bingeait des vidéos d'Among Us, puis elle a fait « Ah, oh, faut que je joue! » Donc, puis je vous le rappelle à la maison, si vous savez pas, Among Us, c'est un jeu un peu style loup-garou. Vous jouez entre 4 et 10 joueurs. Et puis, il y a des imposteurs. Faut les identifier. Et c'est un jeu qui est comme 5$ sur Steam, mais gratuit sur mobile. Fait que si vous vous pognez sur mobile, c'est cross-platform, compatible entre les plateformes. C'est vraiment brillant, là. C'est une formule très gagnante. Pourtant, c'est un jeu de 2018 et c'est le jeu le plus populaire en ce moment. Fait que gros hype pour ce jeu-là.
Eh ben, merci beaucoup, Kasi. C'est pour vrai. Je pense que si ça dessine le futur politique des autres candidats qui vont peut-être joindre la plateforme pour justement diffuser et faire apprendre un peu la politique aux jeunes qui peut-être ça leur intéresse pas, là, tu sais, c'est probablement pas intéressant en ce moment de suivre la politique, là. Donc une belle
Moi j'aime ça suivre la politique, ouais. Surtout quand il y a des photos de Rudy Giuliani circulent sur le web. Ça, c'est des photos qui a un screenshot de Borat 2.
Vous devez écouter le podcast la semaine prochaine parce que on va en parler.
Je vais vous faire une critique d'abord à deux la semaine prochaine. Dieu, oui. Je me réveille à minuit, vendredi, pour le regarder. Minuit ou 3h du matin, on va voir. J'ai très, très hâte de vous parler de ça. On n'a pas fini de parler de politique américaine, les amis.
Non, vraiment pas. Vous allez être tannés bientôt, mais ça s'en vient, c'est incroyable. Merci, Kasi. On va continuer notre rafale de nouvelles avec la niche à l'EMU. Alors, dans la niche à l'EMU cette semaine, on jase de nouvelles sur la prochaine mise à jour de Stardew Valley, la mise à jour 1.5. Donc, comme un cheveu sur la soupe, Concerned Ape, donc le développeur Eric Barron, connu aussi sous le nom de Concerned Ape, a littéralement envoyé une photo sur son compte Twitter pour montrer une nouveauté qui s'en vient dans la prochaine mise à jour 1.5 de Stardew Valley. Donc, c'est une nouveauté qui était très en demande par la communauté et c'est littéralement le mode coopératif en écran divisé, donc en split screen, qui arrive enfin sur Stardew Valley. Donc ça va faire plaisir à tous les couples de la planète. D'abord et avant tout, je sais que Raph, tu vas être content de pouvoir jouer à Stardew Valley avec ta dulcinée sur la même télévision.
Ben oui, absolument, écoute. J'ai hâte de voir, en fait, ben tu vas nous en parler un peu plus, mais j'ai hâte de voir comment ça va être appliqué, ce mode-là. Il y avait Animal Crossing, entre autres, qui avait fait couler beaucoup d'encre avec son mode multijoueur local, mais qui finalement n'avait peut-être pas été à la hauteur. Du moins dans notre maison, là, n'avait pas été à la hauteur des attentes parce que bon, on pouvait pas nécessairement faire la même chose de part et d'autre, la personne qui hostait en quelque sorte la partie et l'autre personne qui joignait.
Ouais.
Donc là, par contre, ça va être un peu différent, là, je crois, pour Stardew Valley.
Exactement. Donc chacun va pouvoir faire ce qu'ils veulent de leur côté sur la même carte. Donc c'est vraiment, littéralement, c'est vraiment chacun joue de son bord, puis on se ramasse tout ensemble, puis on prend une bière à la fin de la journée, puis on résume notre journée, nos récoltes et tout ce qu'on a amassé dans notre exploration. Donc, c'est vraiment, ce mode-là va être appliqué sur toutes les plateformes. Donc, il précise que le mode écran divisé va être déployé sur PC, et sur console, et que le nombre de joueurs en simultané va varier selon la plateforme. Donc, on sait que en PC, on peut jouer jusqu'à 4 joueurs ensemble, et sur console, ben, ça va être limité à 2. Donc, vraiment, pour les couples ou pour les duos d'amis qui sont toujours ensemble, ou frères et sœurs, hein, ça va être, pour vrai, ça va être vraiment génial pour ça.
Je pense que c'est juste 2 pour console, honnêtement. Si c'était 4 sur console, ça commencerait à
être crowded. Je sais pas,
on le faisait avant, mais...
Moi, je me rappelle de fin de semaine de gaming que je faisais avec mes amis sur une télévision 20 pouces, puis on jouait à Star Fox Assault.
GoldenEye!
Aussi, GoldenEye. Puis 20 pouces, là, c'est pas très gros quand tu divises ça par 4. Mm-hmm. Donc, c'est faisable, mais aujourd'hui, au moins, les télévisions beaucoup plus grandes sont beaucoup plus abordables. Donc, c'est nouveau pour dire. Bien sûr, la Twittosphère s'est emballée, hein, parce que non seulement c'est quelque chose qui était en demande, mais les images que Concerned Ape a partagées, les utilisateurs sur Twitter ont remarqué beaucoup de choses qui ne sont pas présentes dans la version présente de Stardew Valley. Et ont décidé de faire leur Sherlock Holmes et de nous dire quelles sont les nouvelles choses qu'on va retrouver dans Stardew Valley 1.5. Donc, juste dans l'image qui a été partagée par Concerned Ape, on retrouve la présence de racines de gingembre. Donc ça, c'est un nouveau légume. Est-ce qu'il va être présent sauvage ou ça va être planté? On le sait pas. Une nouvelle sorte de slime qui porte des lunettes de soleil. Ça, c'est cool.
Ça, c'est malade.
C'est malade. Des nouvelles plantes inconnues, on sait pas trop c'est quoi. La présence de scarabées ou de coccinelles sur les plantes. Donc, ça veut-tu dire qu'on va pouvoir chasser les insectes? Qui sait?
Ça merge avec Animal Crossing.
Ah oui, non, écoute, à un moment donné, il y a Tom Nook qui va arriver, ça va être le nouveau maire.
Donnez-moi de l'argent.
Ça va être le bordel, ta maison va te coûter genre 1 million. Ben oui, c'est sûr. Là,
tu veux un upgrade, ça va te coûter 3 milliards.
Exactement. Anyway. C'est ça que ça coûte dans la vraie vie. La possibilité de poser des torches sur les clôtures, ça c'est quelque chose qui était très en demande. Un téléphone, donc qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu peux communiquer avec des gens au lieu de devoir courir après?
Est-ce que tu vas pouvoir appeler Harvey?
Oui, au milieu de la nuit.
Harvey, sa moustache. Je m'appelle toujours Harvey, moi.
C'est ta date, ouais, c'est ta date habituellement,
toi,
Harvey.
C'est ta date, ouais.
Ben, il est gentil, puis il est médecin, puis il donne un déjeuner des fois, puis
c'est vrai.
Bonne journée, moi je le trouve parfait.
Ça te prend pas grand-chose, hein, diplôme en médecine, puis un déjeuner le matin.
Mais il n'y a pas de problème comme l'autre, là, le petit bum.
Jonathan, c'est ça?
Non, attends.
Non,
comment ça s'appelle?
Celui qui habite avec la madame.
Shane, c'est pas Shane?
Shane.
Avec ses... Ouais, mais avec ses poules, j'ai de la sympathie pour Shane, moi.
J'ai de la sympathie de loin pour lui. Je suis comme, reste avec tes problèmes, moi je vais prendre Harvey. J'aurai pas de problème. J'ai de la sympathie pour toi, mais j'amène pas ça chez nous. Hein?
Ben, c'est une façon de le voir. Hein?
T'as raison. D'ailleurs, dans les autres nouveautés qui s'ajoutent, il y a deux nouveaux coffres, dont un qui a comme des feuilles dessus. Donc on ne sait pas du tout c'est quoi, mais c'est un coffre mystère. Deux nouveaux équipements artisanaux qu'on n'a jamais vus, dont un qui a comme un os de dinosaure dessus, donc on ne sait pas c'est quoi. Des nouveaux vêtements, un nouveau meuble de télévision, donc une nouvelle télé. Tu vas pouvoir upgrader ta télévision cathodique, qui sait?
Ben oui, écoute.
Des meubles pour l'extérieur, donc des petits bancs là, pour mettre puis nourrir les petits oiseaux. Et du nouveau plancher. Donc, ça, c'est les quelques nouveautés que les gens ont pu déceler sur Twitter. Mais juste ce simple tweet de l'image partagée par Concerned Ape a plus de 9 000, presque 10 000 retweets, 3 000 citations et 74 000 likes. Donc, il faut dire que le public de Stardew Valley en veut plus. Il a soif de nouveautés. Un public très passionné par la ferme et les poules et les mines Bref, on est passionnés, OK? On est très passionnés.
Mais il y a un autre, screenshot qui circule sur le web là, à propos de l'update 1.5, là, on mm-hmm. appelle, ça s'appelle 1.5. Ouais. Là, c'est la scène, c'est comme sur une genre de plage. Les canards sont dans l'eau. Il y a des canards sur l'eau. Et puis, il y a un personnage qui est en train de pêcher sur la plage, mais c'est une plage que je ne reconnais pas. Il y a des arbres dans l'eau. C'est vraiment quelque chose. Moi, selon Concerned Ape, ça fait partie de la mise à jour 1.5, c'est ça qui est écrit. Mm-hmm. Fait que moi, je pense qu'on va avoir enfin des nouveaux lieux, des nouveaux coins à explorer sur la map, parce que on fait le tour vite quand même.
Ben, faut dire, si on va du côté, là, on est très, très, très niche dans la map de Stardew Valley, mais les gens.
On est niche dans la niche.
Oui, oui, on est niche, là. Mais dans le côté gauche, là, au fin fond, après le sorcier, on dirait qu'il y a comme il pourrait avoir un pont là, qui pourrait mener ailleurs.
Ben, ce pont-là, il mène ailleurs.
Quand il y a des parties.
Ouais, quand il y a des parties. Le party, la danse du printemps. Là.
C'est vrai. Là, c'est
okay, on est vraiment deep knowledge dans Stardew Valley en ce moment. Mais il y a effectivement une belle danse. Et c'est d'ailleurs là que j'ai eu ma première danse avec Harvey.
Oh! Ben, t'es habillé comment?
Tu portes ton linge quand tu vas là, mais tout le monde est habillé chic sauf toi.
C'est ça. Qu'est-ce que tu portais cette journée-là? Parce que moi, je pense que je portais une salopette avec des grosses bottes brunes puis un petit chapeau de paille. Là.
Ouais.
Alors voilà, c'est des nouveautés qu'on va surveiller de très très près. On ne connaît pas la date de sortie de cette nouvelle mise à jour, mais tel un renard affamé, on va surveiller ça de très près, pour vous. Voilà. Alors, prochain volet, les amis, on va jaser à notre beau correspondant de Raph après cette petite musique magnifique que Kaz a choisie. Donc, on rappelle qu'on cherche toujours un nom pour la chronique de Raphaël. Vous pouvez déposer vos suggestions sur notre serveur Discord. Alors, Raph, cette semaine, tu as une chronique qui ne parle pas de PlayStation 5.
Ben oui, je me suis dit que j'allais faire changement, comme on va sûrement en parler dans les prochaines semaines, hein, parce que ça sort quand même bien dans moins d'un mois. Alors, on va prendre un petit break. Hein. Oh. C'est assez, à un moment donné, on n'est pas payé par Sony, fait qu'on peut bien parler d'autre chose. Alors, aujourd'hui, on va parler de musique, de jeux vidéo. La musique, c'est important dans les jeux vidéo et je trouve personnellement qu'on parle trop peu souvent des trames sonores dans les jeux vidéo. On va aller parler des graphismes, on va aller parler de l'histoire, des mécaniques, les modes de jeu. Mais dans une critique, notamment dans un preview, dans toutes sortes d'articles, quand est-ce qu'on va aborder la trame sonore d'un jeu? On va le faire un peu ici et là, mais je crois que globalement, là, notre industrie, on est tous très, très, très coupables de ne pas assez parler de musique de jeu.
Ça dépend à qui tu parles. Moi, je pense beaucoup à la musique, mais c'est vrai que j'en parle jamais dans les critiques parce que je me dis que le monde s'en fout un peu. J'y pense passionnément, par contre. C'est vrai que je vous ai fait des speeches assez étranges sur la musique de jeux vidéo dans le passé.
Et les Muffets.
Et les Muffets, effectivement. Mais c'est... Toutes les critiques, Washington Post, Bloomberg, tout le monde, Kotaku, Polygon, personne parle de musique. Personne.
Mais justement, je crois que c'est ça qui est paradoxal. Je crois que pour tout le monde, incluant nous autres, et les autres critiques, en fait, je crois qu'un peu pour tout le monde, c'est très important, la musique dans les jeux. Et c'est quelque chose qui va... peut-être différencier un jeu duquel on va se souvenir profondément, qui va nous marquer, et un jeu dont on va parler pendant une couple de mois, puis après ça, qui va sombrer un peu plus dans l'oubli. Et c'est ça qui est paradoxal. C'est important pour tout le monde, mais maudit, on n'en parle pas. Alors, à soir, on va en parler. On ne parlera pas de PlayStation 5, mais on va parler de musique, de jeux vidéo. Parce que bon, vous irez lire sur Shameless Plug, là, vous regardez le podcast, vous écoutez le podcast de toute façon de Paix sur Start, là, vous devez
On peut parler de Paix sur Start.
Vous devez, en théorie, vous attendre à ce qu'on drop des liens ici et là vers notre site web, parce que si vous ne le savez pas, Paix sur Start, ben, quand c'est un site web, surprise.
C'est un très bon site web.
Oui, absolument. Alors, on a décidé, en fait, Quasi-Christine et moi, de fouiller un peu dans notre psyché et de se poser la question, là, très personnelle, quelles sont nos trames sonores préférées de jeux vidéo à chacune et à chacun? Parce, bon, on parle pas assez de musique, fait que je pense que c'est un bon point de départ de dire qu'est-ce qu'on préfère. Mon micro, c'est un MXL V69. C'est un MXL? Oui, t'as l'œil. Je sais pas le modèle. Je peux pas te revenir. Je vais te revenir.
Ça, c'est Gab.
On a un autre de micro dans le chat.
C'est Gab Meunier. c'est notre tech de Cube Radio. Donc, on salue. Il connaît son stock de sonore. Voilà.
Je trouve ça quand même vraiment excellent. Donc, salut Gab. Mais bon, poursuivons. Donc, ben micro, musique, écoute, il y a des liens à faire anyway. Là, c'est pas si pire que ça. Mais bref, on s'est dit qu'on allait fouiller un peu en dedans de nous autres et se poser la question, commencer par ça, quelles sont nos trames sonores préférées de jeu? Parce que souvent, on va penser à Super Mario Bros, à Tetris, à Final Fantasy, à Chrono Trigger. On va penser un peu aux classiques. Mais quelles sont les musiques qui nous ont le plus marqué? Fait que, écoute, je vais comme un peu animer le segment. Je vais shamelessly commencer peut-être par, oui. Par mes propres
choix. Ben oui, comment ça
choix.
Se voit, hein? Savoir qu'est-ce que t'en
ouais. Puis, bref, c'est ça. Je me suis mis à y penser un peu. Quelles sont les trames sonores qui m'ont le plus marqué? Puis, étonnamment, c'est pas tant des jeux rétro, c'est pas tant des jeux classiques. C'est peut-être une question de la musique ensuite, c'est quoi qui est très, les goûts musicaux, c'est très fluide là, chez une personne. Là. On va aimer quelque chose une année, puis l'autre année, on ne l'aimera pas. Mais en tout cas, dans le temps actuel, je suis obligé de dire que personnellement, ce que j'écoute le plus, on en a parlé un peu tantôt, moi, c'est Stardew Valley, personnellement. Ce que j'écoute le plus en dehors, mettons, trame sonore de jeux vidéo, en dehors d'un jeu, là,
ouais.
C'est définitivement Stardew Valley, j'adore cette trame sonore-là. Je trouve que c'est magnifique, c'est diversifié. Il faut dire qu'au départ, Stardew Valley, c'est un jeu qui est très près du concept des saisons. Bon, c'est une simulation fermière où est-ce que vous allez devoir cultiver et faire diverses activités selon la saison courante. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que la musique est excessivement centré là-dessus. Je sais pas trop comment le dire, mais en fait, la musique va suivre les saisons, autant au niveau du mood, autant au niveau des instrumentations. C'est incroyable, la musique de Stardew Valley. Puis ce qui est encore plus incroyable, c'est que c'est l'œuvre, le jeu est l'œuvre d'un seul homme. Stardew Valley, c'est Eric Barone, Concerned Ape, de son surnom. Mais ce qui est cool, c'est qu'il a tout fait, ce gars-là. Il a fait la musique, il a développé le jeu, mais quand même, là, d'aller faire, il y a à peu près, pourquoi, peut-être un 3-4 heures de musique là dans Stardew Valley, incluant les mises à jour et tout. Là. Écoute, composer 4 heures de musique, là, quand c'est pas ta day job, là, c'est quand même assez impressionnant et c'est vraiment super. Vous irez écouter si vous ne connaissez pas Stardew Valley ou que le concept peut-être d'une simulation fermière vous intéresse pas tant que ça, là, vous irez écouter. C'est disponible sur toute bonne plateforme de streaming musical. Vous irez écouter ça. C'est vraiment... Il y a même des vinyles coffrets que je poursuis incessamment depuis plusieurs mois, mais à chaque fois, je me dis « Ah, oh, hey, là, c'est le temps de commander ça. » Ben, il est back-order.
Ah,
mi-novembre, là, je l'ai mis sur ma liste de cadeaux de fête puis de Noël. Là, fait que les personnes qui m'écoutent, ça s'en vient. Mi-novembre que c'est disponible, gang. Clin d'œil. Enfin. Et donc ça, ce serait peut-être la trame sonore ces temps-ci que j'écoute le plus, puis que j'ai découverte de façon assez récente, mais qui me suit là quand même, là, qui me colle à la peau. Un autre jeu que j'ai passé récemment et que, ben, shame on me, mais que j'ai adoré la musique, c'est Undertale.
Ouais.
J'ai trouvé vraiment incroyable. Ici aussi, c'est le développeur, en fait, qui a composé la musique, Toby Fox. c'est vraiment, mais vraiment bien fait. Puis c'est super diversifié, mais en même temps, c'est vraiment un beau clin d'œil à un paquet de trames sonores marquantes là, de l'époque 16 bits. Là, on peut penser justement à Chrono Trigger et compagnie. C'est vraiment bien et d'autant plus que c'est un jeu dans lequel l'histoire est vraiment à l'avant-plan. Là. C'est un RPG, mais bon, où est-ce que l'histoire est très centrale? C'est un jeu qui est super drôle si vous l'avez jamais essayé. Et il y a beaucoup de dialogues, mais écrits. Ce n'est que du texte, il n'y a pas de doublage. Donc, la musique prend vraiment une place qui est importante dans le jeu et je trouve que cette trame sonore-là colle parfaitement à tout ce qui se passe dans le jeu. Et je sais pas pour vous, mais pour moi, c'est vraiment une valeur ajoutée dans une trame sonore de jeu vidéo où est-ce que tu es capable de la réécouter par après. Ouais, tu te dis, ah oui, tel boss, hein, c'était quelque chose ou tel village.
C'est
c'était incroyable. Donc, Undertale, vraiment, 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 vraiment bien au niveau de la trame sonore, au niveau du jeu. En fait, ça coûte pas cher en plus, vous irez essayer ça. Si vous l'avez pas déjà fait, là, c'est sorti, je crois, en 2016. Là, je suis en retard, comme d'habitude. et je terminerai de mon côté avec un autre jeu à l'histoire magnifique, à l'univers magnifique plutôt. Mais ça, c'est pas super original. Legend of Zelda Breath of the Wild serait peut-être la troisième trame sonore, du moins ces temps-ci, là, que j'apprécie énormément.
Très différente des autres Zelda comme soundtrack, hein? Très, très, très différente, ouais. Je trouvais. Vraiment, tu sais, c'est quasiment de l'ambiance, un peu, tu sais, des petits sons de piano ici et là. On dirait que des fois, c'est le vent qui te chante.
Oui,
c'est vraiment très spécial comme soundtrack.
Pour très incorporé au jeu.
Ouais. Parce que la musique dans beaucoup de jeux Zelda, mettons, je pense à Ocarina of Time, par exemple, la musique est tellement centrale au jeu. Tu sais, tu joues des tunes pour te rendre à des places. Puis Breath of the Wild a vraiment changé tellement d'ingrédients à la recette Zelda que c'était comme voir qu'ils ont réussi à scorer aussi haut. Tu sais, voir qu'ils ont réussi à pas se planter. Puis avec la musique aussi, vraiment un gros changement.
Ouais, puis c'est une trame sonore justement qui s'écoute super bien en travaillant ou en faisant autre chose, mais en même temps qui colle au jeu, tu sais, mais ça reste de l'ambiance, mais un peu comme Undertale justement dans le texte. J'ai sorti l'exemple plus particulièrement du thème qui accompagne les bagarres contre les gardiens, en fait. Puis pour de vrai, j'ai de la misère. J'adore écouter cette trame sonore-là dans un contexte justement où est-ce que je travaille, où est-ce que je fais autre chose. Mais dès que la chanson des gardiens pop, j'arrête tout ce que je fais, je suis pas capable de continuer. Je sais pas, j'ai un PTSD là qui...
mais c'est vrai, mais j'écoutais la soundtrack à un moment donné de Breath of the Wild en marchant. Et cette fameuse tune-là a commencé à popper, puis j'étais comme, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un me pourchasse. Absolument, parce que comme tu dis, la musique va nous remettre un peu dans la situation qu'on était quand on l'a entendu pour la première fois. Fait que man, la toune du gardien est juste pas plaisante, là.
Non, c'est ça. C'est une immense dose de stress. Puis justement, je trouve que c'est un peu le gage d'une trame sonore réussie au niveau d'un jeu vidéo, ben au niveau d'un film ou n'importe quoi, là, une bande sonore en général, mais tout particulièrement dans un jeu vidéo. Le fait de pouvoir la réécouter après et de ressentir des choses qu'on a ressenties justement pendant le jeu, là, c'est vraiment quelque chose et c'est tout à l'honneur justement de la trame sonore de Breath of the Wild qui, comme tu le dis, bon, est un peu un départ des traditions, peut-être un peu plus de la franchise. Là. Ça reste une franchise avec plusieurs traditions. Breath of the Wild n'a pas juste cassé la tradition, comme tu l'as dit aussi, de la trame sonore, mais c'est une réussite, je trouve, de A à Z. Puis dans l'histoire récente, là, je trouve que c'est au niveau des musiques, c'est vraiment quelque chose qui a été marquant pour moi, mais pour plusieurs joueurs, j'imagine. Mais vous, de votre côté, vous avez sorti, puis ça, c'est intéressant, vous êtes sorti un petit peu dans vos choix de trame sonore favorite de la musique originale, en fait. Toutes deux, vous êtes allés chercher des jeux qui avaient plus des trames sonores où est-ce qu'on empruntait de la musique licenciée, là, en quelque sorte.
Donc
je suis curieux un peu de vous entendre sur ce sujet-là, peut-être quasi si tu veux lancer le bal, entre autres Tommy Grand Theft Auto 5 qui est quand même qui est quand même au niveau des trames sonores, là, il n'y a pas plus melting pot de chansons que ça, c'est littéralement des stations de radio.
Oui, oui. Puis ça, c'est. Tu sais, c'est. On sait que GTA, bon, les stations de radio sont légendaires, peu importe un peu où est-ce que tu te promènes dans la série. Ce que j'aime, par contre, de Grand Theft Auto, c'est qu'ils sont vraiment allés. Sont allés chercher des DJ comme des animateurs de radio. Puis chaque station représente parfaitement le style qui l'inspire. Tu sais, moi, je pense notamment à la chaîne punk. Tu sais, c'est Channel X, c'est du Black Flag, c'est du Descendants, c'est du Circle Jerk. Fait que chaque personne qui trippe sur ces styles-là va absolument aimer la station de façon probablement aussi démesurée que moi. Ce que j'ai aimé aussi dans GTA, par contre, c'est le choix des chansons à certains moments du jeu. Parce que, bon, nous autres, on est habitués aux trames sonores puis aux bandes sonores. T'sais, dans ma tête, les bandes sonores, c'est plus comme les scores, t'sais, ce qui est comme un peu orchestré pour le jeu ou pour un film. Puis comme dans ma tête, les trames sonores, c'est comme les soundtracks. Moi, je suis plus attiré vers des chansons que je connais déjà peut-être ou que j'entendrais peut-être plus à la radio, tu sais. Mais GTA a trouvé une façon vraiment magnifique d'incorporer ces chansons-là au jeu. Je pense notamment à la fin du jeu. Bon, je vais pas vous spoiler la fin, mais quand même, on va se dire...
Ça fait assez longtemps que le jeu, ouais, c'est ça.
Ça sort en 2013. Si t'as pas fini GTA en 2020... Je sais pas qu'est-ce que tu fais, mais il va sortir sur les consoles, les prochaines consoles aussi, fait que tu le feras là-dessus. Évidemment, je vais le faire. Je pense notamment à la fin du jeu, avec la chanson de setup qui embarque à la fin de, tu sais, oh, tu setup, tu setup. C'était tellement marquant, ce moment-là. J'étais comme, wow! J'étais bouleversée d'avoir terminé le jeu. J'étais comme, c'était très cinématographique. C'était un moment, tellement explosif dans toute cette saga-là. On s'entend que GTA, c'est pas un jeu qui se termine très rapidement non plus. Fait que t'as déjà investi beaucoup d'énergie dans cette histoire-là, dans ces personnages-là. Donc, c'est un peu pour ça. Mais il y a aussi, dans mes choix, j'ai mis aussi un jeu qui est vraiment pas long. Je pense que c'est quoi, un jeu d'une heure et demie quasiment, qui s'appelle The Awesome Adventures of Captain Spirit. Je sais pas si vous vous en rappelez, mais c'était un genre de mini épisode dans la série Life is Strange.
C'est un prélude à la deuxième saison, en fait.
C'est ça. Je pense qu'il était gratuit. C'était comme un genre de démo. Puis moi, j'ai pas embarqué beaucoup dans l'univers de Life is Strange. Pas parce que j'aime pas ça. C'est juste que j'ai pas pris le temps de le faire. Mais, tu sais, je commence le jeu The Awesome Adventures of Captain Spirit. Probablement, c'est une histoire excessivement touchante, bouleversante. J'ai pleuré, d'ailleurs, durant la diffusion. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Puis, la chanson principale du jeu, c'est la chanson « Death with Dignity » de Sufjan Stevens. Si les gens qui me connaissent un peu savent que je suis une très grande fan de Sufjan Stevens, mais surtout une fan de cette chanson-là, c'est une chanson qui est trop utilisée, qui est comme surexploitée. Dans plein de... Je joue dans This Is Us, la série. Je l'ai vu dans des documentaires Vice. Toujours sur des trucs qui parlent de la mort. Parce que c'est une chanson qui parle de la mort. C'était Death with Dignity. Mais à chaque fois que je l'entends, au lieu d'avoir une réaction négative, de faire comme « encore cette tune-là », je suis toujours contente de l'entendre. Je trouve tellement que c'est une chanson magnifique qui collait parfaitement à ce jeu-là, qui est un jeu troublant. On va se le dire, c'est un jeu vraiment troublant. Puis ça venait ajouter une douceur, mais aussi une couche d'émotion. T'es déjà émotif quand tu joues ce jeu-là et ça l'ajoute vraiment beaucoup à l'atmosphère, surtout si t'aimes déjà beaucoup cette chanson-là. Si l'aimes déjà beaucoup, c'est comme, oh, wow! C'était juste comme une explosion de, wow, tout est beau, j'aime vraiment ça. Fait que, un peu pour ces raisons-là aussi, bon, c'est sûr que j'aime se retrouver des tunes que j'aime déjà. Sinon, j'ai donné quand même un autre props à Rockstar là, pour la soundtrack et la score, mettons, de Red Dead Redemption. La musique qui a été composée pour le jeu est écœurante. La musique d'ambiance, on l'entend beaucoup dans le jeu. On entend beaucoup des inspirations un peu bluegrass, country, un peu, pas western, mais tu sais, comme c'est très, très old school. Beaucoup de banjo, puis c'est très doux. Puis on l'entend à des moments aussi encore très émotifs. Mais il y a aussi une soundtrack qui a été composée pour Red Dead Redemption qu'on entend à travers le jeu, où est-ce qu'il y a des chansons avec des chanteurs qui ont été écrites par Daniel Lanois, qui vient de Hull. le Daniel Lanois.
J'aime que tu précises qu'il vient de Hull quand même.
Ben, je suis contente qu'il vienne ici. Ben bon, ouais. Il travaille avec les plus grands noms de la musique. Ce gars-là, c'est vraiment... C'est un musicien hors pair, là, c'est un compositeur hors pair. Il a écrit des chansons pour la soundtrack, dont certaines chansons qui jouent à des moments dans la vie du personnage. Je vous rappelle le nom du personnage, c'est Arthur Morgan. Arthur Morgan qui n'est pas tout le temps la vie facile dans le jeu de Red Dead Redemption. Et il y a des chansons qui jouent à des moments. Encore une fois, j'ai pleuré, les amis. Donc, encore des chansons qui sont venues me bouleverser à des moments auxquels je ne m'attendais pas à vivre ces émotions. C'est surtout ça qui est important à mentionner. Et les fois que j'ai réécouté ces chansons-là, comme Raph disait, on est comme retransporté au moment qu'on l'a entendu la première fois. Donc, à chaque fois que j'entends la tune Unshaken, je pense à Arthur Morgan qui est à cheval dans une longue scène où est-ce que tu écoutes la chanson de A à Z, tu l'écoutes au complet, la tune. Puis c'est comme une cinématique, c'est comme un vidéoclip dans le jeu. J'avais jamais vraiment vu ça. Fait que ce côté-là de Red Dead Redemption 2, je trouve qu'il est, d'après moi, qui dépasse carrément Red Dead Redemption, qui dépasse GTA côté émotion là, pour la musique. Puis sinon, mention spéciale aussi à Cuphead. Le Cuphead de la musique était 40, là, on le sait. C'est comme du big band, du jazz, du ragtime. Puis je pense que, tu sais, dans ce jeu-là, Cuphead n'avait pas le choix de mettre de la musique comme ça. Il n'avait pas le choix. Parce que c'est des
animations. Ce côté un peu chaotique du jazz, là.
Ah, ben c'est ça, j'ai écrit dans l'article que vous pouvez voir sur pastor.com. Le jazz, c'est stressant. Cuphead aussi. Le jazz, moi, je trouve ça vraiment profondément stressant comme musique. C'est vite, puis... Ou le big band aussi, puis... C'est vraiment stressant, mais c'est parfait. C'est vraiment parfait pour un jeu comme Cuphead.
Ouais.
Puis avec l'animation style facieux, style années 30, t'as pas le choix de mettre de la musique comme ça. Mais sont tellement allés loin, je trouve, avec la trame sonore de... C'est pas de la musique stock, là. Ils sont allés chercher un vrai big band, un vrai ensemble de ragtime, c'est des vrais chanteurs, des vrais musiciens. C'est un live band qui a enregistré les chansons. Ça, c'est un effort qui fait en sorte que l'album de Cuphead... L'album est excellent, là. Tu pourrais donner à ton oncle qui est fan de jazz puis aimerait ça, là. Sans lui dire que c'est un jeu de Cuphead. Fait que... mais tu sais, il y a tellement de choix. Pour vrai, j'aurais pu parler de 30 milliards de jeux, là. Il y en a plein où est-ce que la musique a joué un rôle super important. Mais je pense encore qu'il n'y a rien qui va dépasser le moment d'Arthur Morgan à cheval. Il n'y a rien qui va battre ça. Dans ma tête, moi, je pense encore que Red Dead Redemption 2, c'est comme probablement le meilleur jeu de tous les temps, là. Je sais que c'est... Je sais que je suis intense avec ça, mais c'est... J'aimerais ça pouvoir faire comme dans le film Eternal Sunshine of a Spotless Mind, puis effacer ce jeu-là de ma mémoire pour pouvoir y jouer pour la première fois.
C'est tellement pas la première fois que tu dis ça. Oh my God!
Ouais, Eternal Sunshine, c'est une référence pour wiper ma mémoire de certaines choses, ou pour les revivre pour une première fois.
Mm-hmm.
Puis ça, il y a pas beaucoup de jeux qui sont capables de faire ça. Puis Red Dead Redemption 2, c'en est un. Fait que allez écouter la soundtrack, vous pouvez l'écouter un peu partout et sur toutes les plateformes de streaming. Encore une fois, le bon Daniel Lanois qui nous offre des bonbons.
C'est beau ce que tu dis, Kaz. C'est vraiment beau.
C'est de musique. Combien de fois que je parle de musique dans la vie? Comme sur, disons, on a un channel Slack là, pour parler durant le travail, tu sais, où est-ce qu'on s'envoie nos messages. Bon, je vais faire tes sujets, nana. Je leur parle souvent de musique. Les pauvres, mes pauvres
pas collègues. Pas toujours de bonne musique, mais bon.
Non, pas toujours de bonne musique. Des fois, je vous envoie des vidéoclips. Mais non, oui. Yeah. J'étais content que tu fasses ce sujet-là cette semaine. C'est vraiment une bonne idée, je trouve. C'est vraiment le fun.
Ouais, ben écoute, l'occasion de parler de musique ne vient pas toujours dans notre domaine, donc il faut la créer.
Ouais.
Puis toi, de ton bord, Christine, t'as quand t'as quand même un mix intéressant de jeux un peu plus grand public et de jeux un peu plus obscurs. Donc, je suis curieux de t'entendre parler un peu de ces trames sonores-là.
Je dois dire que je suis pas une encyclopédie musicale comme vous deux. Pour moi, la musique, je l'écoute vraiment à sa plus simple expression. Donc, c'est le genre de truc que je vais écouter pour avoir une émotion, pour me relaxer ou tout simplement pour être ben contente là. Donc dans les trames sonores que j'ai mis, il y a un petit jeu que je voulais pas laisser ça dans l'oubli. C'est un jeu qui m'a peut-être pas marqué côté gameplay, mais qui m'a marqué côté musical parce que pour vrai, le jeu s'appelle Not Tonight et elle a une trame sonore qui est vraiment sans grande prétention. Mais je crois qu'il valait la peine que j'en parle parce que elle a juste un but très simple, c'est de vous faire danser. Donc juste pour vous mettre un peu vous placer un peu mais qu'est-ce Not Tonight? Littéralement Not Tonight, c'est que vous jouez le rôle d'un bouncer de club en Angleterre et vous devez faire entrer les gens en vérifiant leur carte d'identité, leur passeport et s'ils ont des invitations, etc. Un peu comme Paper Please dans lequel tu joues un douanier. Mais bien sûr, t'es un bouncer de club, de discothèque. Donc la musique accompagne énormément le jeu selon la discothèque à laquelle t'es placé. Puis qui dit discothèque dit on parle pas de musique un peu morose ou un peu déprimante, c'est toujours de la musique pimpante qui va encourager les gens à danser et à boire jusqu'aux petites heures du matin. Donc, dans la liste de chansons qui forment la trame sonore de Not Tonight, c'est vraiment une liste de chansons qui existe pour, je crois, bien commencer la journée ou recommencer son après-midi après avoir dîné puis être en train de digérer. C'est le genre de playlist que je vais mettre justement pour me redonner un peu d'énergie et continuer ma journée de travail ou commencer ma journée de travail. C'est le genre de trame sonore qui existe pour si vous faites un long voyage en voiture, ben si vous êtes le DJ attribué au câble auxiliaire là, ou à votre Bluetooth, ben mettez cette trame sonore là, votre voyage va se faire comme un pet, puis vous verrez pas les 3 heures entre Montréal et la destination à laquelle vous devez vous rendre. Puis ben si vous avez une petite soirée de jeu de table, encore une fois, cette trame sonore là, slapez-la dans votre haut-parleur sans fil, je vous garantis que c'est une trame qui va vous rendre heureux. Puis qui va vraiment bien accompagner n'importe quelle activité qui existe sur la planète.
Donc la musique c'est de background quand tu joues des jeux de société, je trouve ça tellement important.
C'est tellement important. Puis il faut que ça soit de la musique de background, je pense. Colle peut-être pas nécessairement. C'est ça qui colle pas nécessairement à ce que vous jouez. C'est vraiment la musique c'est juste pour oublier. Puis si vous êtes dans un moment très intense de penser ou de réagir, ben cette musique-là vous accompagne avec beaucoup de bonheur et pas de stress, hein, parce qu'il faut que c'est important. Les jeux de table, faut pas que ça soit stressant. Donc, dans les autres choix que j'ai mis, il y a un jeu Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain. Peut-être que vous connaissez pas là, ce petit jeu-là.
Ce petit jeu-là, Metal Gear.
Ben, c'est dude là, Hideo quoi? Hideo Kojima, ouais, peux-tu? Je sais pas.
Il a voulu prendre une selfie avec moi là.
Oui, on devrait la montrer.
Donc, Hideo Kojima qui nous a donné ce très beau jeu, ce très beau classique maintenant. Du gaming et qui a une trame sonore quand même, comment je pourrais dire ça, étonnante pour
très
ce que
éclectique.
C'est ça.
C'est... ouais, c'est très éclectique.
Mais tu sais, ça se passe dans les années 80, puis Hideo a toujours eu un lien, parce que je l'appelle Hideo, tu sais, c'est mon chum, il y a toujours un lien tellement important avec la musique que on le sait dans Death Stranding,
Death Stranding, c'est quelque chose comme soundtrack,
c'est
aussi.
C'est ça, là. Exact. Puis tu sais, lui, c'était important dans Death Stranding qu'il fasse affaire avec un groupe qu'il aimait beaucoup, puis qui a fait un travail magnifique pour la trame sonore. Mais
on dirait quasiment que le jeu est comme conçu autour de la trame
sonore.
Mais
c'est littéralement ça. Il en a parlé dans plusieurs entrevues que la trame sonore pour lui c'était vraiment un point presque central du jeu. Puis c'est important, puis on le dit pas assez souvent, comme tu as dit au début de la chronique, on le dit pas assez souvent, c'est important la musique. Ça nous met dans un mood, ça nous donne des souvenirs qu'on va garder tout le long de notre vie quand on va entendre une chanson, tu sais. Donc pour ce qui est de Metal Gear Solid 5, c'est la trame sonore du jeu m'a rappelé pas des souvenirs du jeu, mais des souvenirs de moments dans ma vie. Parce que, faut le dire, la trame sonore de Metal Gear Solid 5, c'est de la musique des années 80. Donc,
ouais.
C'est des vers d'oreilles, c'est une source de plaisir pour l'esprit. Puis, tu sais, honnêtement, jouer Les Espions avec Take On Me de A-ha, pas demander de mieux, pour vrai. Là. Je sais pas qui aime pas A-ha dans la vie, mais si vous aimez pas A-ha, je suis vraiment triste pour vous.
Fait que, vous avez pas d'âme.
Vous avez pas d'âme, tu sais. Fait que, pour vrai, je suis pas très originale là, quand je parle de mon amour pour la musique des années 80, mais je pense que cette décennie-là est une source de chansons, mais une source de distraction pour une génération qui a grandi dans ces années-là, qui étaient des années quand même troubles, tu sais, on se le rappelle, c'est des années où est-ce que il y avait la guerre froide, la chute du mur de Berlin, donc déjà, dans les années de la chute du mur de Berlin, la musique était ultra importante en Europe. La guerre froide aux États-Unis, au Canada, même chose. Bref, tu sais, c'était les années 80, ça c'était pas facile pour tout le monde.
On pensait que le monde allait exploser là.
Ben oui, c'est littéralement ça, tu sais.
On pensait que c'était la fin du monde.
Le
un
crash
peu comme en 2020.
Aussi, ben ouais, à peu près. Fait que c'est pour ça que la musique est importante.
Voilà. Ouais, il y avait aussi l'idée un peu du mash-up avec Metal Gear Solid, ouais. L'idée d'avoir un jeu d'espionnage d'un côté, puis d'avoir Bowie qui chante The Man Who Sold the World en même temps.
Ouais.
C'est un peu. C'était vraiment particulier, en fait, au niveau de l'expérience. Puis même si c'est des chansons qu'on entend assez souvent, veux pas, puis qu'on chante aussi assez souvent. Ben, on chantait jadis dans des karaokés.
Ouais.
On dirait que cette espèce de combo-là avec l'univers très éclaté d'espionnage de Kojima, de Metal Gear Solid, et ces chansons-là connues, mais comme réaffectées à un nouvel usage, c'était unique. Là.
C'est weird, mais c'est moi, je trouve que ça reflète bien la déconnexion, on dirait, que Hideo Kojima a avec la culture américaine.
Parfait.
C'est vraiment, on dirait qu'il comprend pas full les États-Unis. Fait que, tu sais, des fois, il essaye. Ouais, mais je trouve qu'il crée des affaires, des fois, qui sont comme, qui sortent, on dirait, de l'imaginaire d'un observateur qui ne vit pas là, mais qui veut vraiment, comme, un peu, expliquer cet univers-là aux autres.
C'est qui veut comme blender un peu, qui se dit hey, cette scène-là, ça fait vraiment américain, mais nous autres, de notre œil,
c'est pas très américain, pas
non. C'est ça.
Mais... T'sais, The Man Who Sold the World, t'sais, Metal Gear Solid, c'est comme OK, t'sais, mettons une production typiquement américaine là, aurait mis la toune de CCR qui joue dans toutes les affaires avec les choppers des années 70, t'sais, comme. Mais je trouve ça le fun parce qu'il apporte une nouvelle façon de regarder justement la guerre, mettons, le thème, les trucs guerriers, on pourrait dire, d'un autre angle un peu. Puis il a fait la même chose avec Death Stranding. Death Stranding, quand même, c'est un jeu militaire quand même un peu, tu sais. Puis on dirait qu'il comprend pas complètement, il voit pas il a pas le même pessimisme américain typique. Il le regarde sur un tout autre angle, puis ça crée justement des univers.
C'est un angle très très en retrait là que qu'il a des États-Unis.
Ouais.
Puis
c'est quasiment naïf, tu sais.
Oui.
C'est quasiment genre Hideo Kojima est idéologiste.
Ben, il y a un romantisme quand même là qui est propre à Kojima.
Puis tu sais, faut quand même penser, juste le nom du personnage est basé sur un film très américain, là.
C'est basé sur... Il est vraiment sur... très, très fan de la culture américaine, ça paraît.
Puis ça paraît qu'il est très fan, c'est ça. Puis des années 80, il y a toujours... c'est toujours ça qui revient dans les thématiques de ces jeux. Donc, d'avoir Metal Gear Solid 5 qui nous ramène... qui mâche ça avec de la musique des années 80 qui était tout à fait l'opposé de ce qui se passait dans le monde... je pense que c'est très intéressant de justement se remémorer d'autres trucs puis l'histoire en même temps derrière tout ça avec Metal Gear Solid 5 puis de faire de l'espionnage puis d'envoyer des chefs dans les airs. Pour vrai, moi c'était mon activité préférée en passant.
Donc, ouais, absolument. Ben oui. Plusieurs personnes, je crois, pensent la même chose que toi.
Écoute, il manquait pas de chefs à ma base. OK? Ça, c'est certain. Ça, puis des aigles. Je sais pas pourquoi il y avait beaucoup d'aigles à ma base. Fait bref, tu sais, ça, c'est les deux jeux-là, c'est vraiment des trames sonores, ou est-ce que c'est des chansons qui se connectent, qui ramènent des émotions positives, des émotions, des sentiments, tu sais, des souvenirs, là, qui s'associent, qui sont très positifs pour moi dans ma vie. Puis, le dernier jeu... Honnêtement, c'est ce jeu, probablement vous le voyez venir à 100 000 à l'heure, mais c'est Minecraft. Donc, un jeu ultra populaire qui est très populaire chez les enfants de 8 ans, chez les enfants de 10 ans, mais aussi qui était très populaire dans le temps que j'ai commencé à jouer en 2010. Parce que oui, j'ai commencé à jouer au mode alpha en 2010. J'ai payé le jeu 25$ dans le temps. 20$. Oh, ouais, tu sais, bref, c'était des peanuts, là, quand on a commencé à jouer à ça. Il y avait pas de biome, il y avait pas vraiment d'animaux, il y avait pas de sorte de minerais, il y avait absolument rien. C'était vraiment juste creuser puis bâtir une maison avec du bois, tu sais. Donc, mais avec ce jeu-là, il y a un côté que le compositeur du jeu, qui est un très bon ami de Notch, a amené, que je crois qui fait que Minecraft, peu importe à l'époque que tu y as joué, va toujours rester gravé dans la mémoire des joueurs, de plusieurs générations de joueurs. Donc, la musique de C88, C418, c'est vraiment des créations, des chansons, de la musique qui est très triste et très douce, sans parole, sans rien, qui se prête tellement bien lorsqu'il faut écrire des textes, écrire des emails ou juste décanter, là, quand on est vraiment stressé, dans un moment stressé. C'est ce que je mets, moi, c'est de la musique de Minecraft, parce que ça me rappelle cette première fois, genre, que j'ai embarqué dans Minecraft, puis j'étais plongé dans un monde ouvert que je ne connaissais pas du tout, que j'avais donc peur, mais que finalement j'ai réussi à apprivoiser puis à construire un gros château en bloc Lego, là. Ça me rappelle, c'est ça, c'est que Minecraft me rappelle mon époque que je jouais au Lego. Je pense que c'est tellement une époque naïve où est-ce qu'il y avait, on oubliait ce qui se passait autour de nous. Puis, c'est encore une fois, c'est ce qui se passe à nouveau avec Minecraft, c'est que tu joues à Minecraft, tu t'actives la musique de Minecraft, puis tu vois pas les heures passer. Il y a des week-ends que je peux passer de 9h du matin, quand je me lève, jusqu'à 10h du soir, puis j'ai pas lâché le serveur Minecraft. je crois que c'est un jeu qui permet d'oublier son quotidien. Puis la musique qui accompagne ce jeu-là est une musique juste tout à fait douce. Puis c'est comme du Vix que tu te mets sur le chest. Oh my God.
Du Vaporub,
exactement.
Le lien est incroyable. C'était vraiment seamless.
C'est confortant.
Hein. C'est ça. Fallait que je fasse le lien. parce que je suis latino-américaine, hein, fait que il faut que je passe le lien du Vaporub dans ces temps froids. Fait que les amis, si vous avez besoin d'un peu de Vaporub sur le chest, jouez à Minecraft, ça va vous faire plaisir. Voilà.
Mais la musique aussi de Minecraft, je trouve qu'elle accompagne bien le grinding. Parce que Minecraft, c'est quand même pas mal de grinding. Tu sais, comme, mettons que t'as un objectif, là, il faut que t'ailles certaines ressources. Il faut que tu grindes pendant un bout pour aller, tu sais, comme pour finir à ton but. Finalement, t'es dérouté par 30 000 choses. C'est le fun de pas avoir une musique qui est trop... tu sais, comme...
Stressante.
Ouais, c'est ça.
Tu sais, le Minecraft a un but. Minecraft a une quête où est-ce que tu dois te rendre. Tu commences à Minecraft, puis il faut que tu battes un dragon pour dire que t'as fini le jeu, entre guillemets. J'ai jamais battu le dragon. Ça fait 10 ans que je joue, j'ai jamais battu le dragon parce que je me dis, hey, tu sais quoi? Je vais commencer, puis je veux, OK, je vais avoir ma station, faire des potions pour pouvoir aller battre le dragon. Hey! M'aller faire un stade olympique à place, tu sais. Fait que c'est ce genre de truc-là qui t'accompagne, puis tu te dis, bon, ben, j'ai oublié ce que je faisais, là. Qu'est-ce que je faisais? Ah oui. Fait que j'aille battre le dragon.
Moi, j'ai fait un trou dans Minecraft à un moment donné. Je tombe dans une grotte, puis j'ai jamais été capable d'en sortir.
Oh non!
Je voyais rien.
J'ai souvenir, moi, sur un de nos serveurs, qu'un de nos collègues que tu connais très bien, Fred Poirier, qui est notre vidéaste favori, il jouait avec moi à Minecraft et il a fait un stade de baseball. Avec probablement 300 sièges ou quelque chose comme ça. Puis chaque siège était identifié. Puis c'était, honnêtement, cet homme nous faisait des constructions magnifiques. Et il battait le dragon en plus. Donc, lui, il savait jouer.
Il faisait le jeu pour
lui. Tu sais, puis des fois, il dit, bon, ben, j'ai fini. Pouvez-vous recommencer le serveur parce que faut jouer battre le dragon, là. Mais, tu sais, c'est ce genre de détermination que Minecraft donne. Puis je crois que l'accompagnement d'une musique qui est simple, sans trop de fla-fla, fait en sorte que ça joue bien, hein, tu sais. Ça joue très, très bien.
Excellent choix. Je pense que ceux qui écoutent à l'audio, vous le savez pas, mais on est live sur Twitch en ce moment pour l'enregistrement. Puis les gens du chat ont aussi des belles suggestions. Les gens aiment beaucoup Minecraft aussi. Final Fantasy revient souvent. Vraiment, Persona 5 aussi qui a été mentionné.
Oui.
Il y a des très, très bonnes soundtracks qui sont là. On n'a pas fini de faire le tour. Des fois, il faut juste rejouer un jeu un peu pour comme se rappeler à quel point qu'on aimait la soundtrack. Ocarina of Time, c'est quand même épique.
Ah, ben, oui, tout à fait. Puis je pense qu'on peut nommer beaucoup de jeux rétro. Comme, tu sais, Raph, il disait, c'est étonnant les choix qu'on a faits, parce qu'on n'a pas fait de choix qui sont obvious. Donc, on n'oublie pas là, les classiques, on n'oublie pas qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on est arrivé à ces choix-là aussi. On n'oublie pas les Chrono Trigger, les Final Fantasy, Super Mario Bros. Qui ne se rappelle pas de Super Mario Bros. 1, premier tableau?
Ça, c'est clair.
C'est toutes des bonnes soundtracks, mais c'est pas des soundtracks nécessairement qui viennent me chercher par les émotions autant que celles que j'ai choisies. D'ailleurs, la première expérience que j'ai avec, techniquement, avec PS sur Start, c'était comme en 2014, je pense, que j'ai été invité à un podcast de la même équipe.
Oui.
D'un autre site. Ben, c'était le sac de chips, dans le fond, ou le sac de chips. Puis c'était pour parler de musique de jeux vidéo. Puis c'est depuis cet épisode-là que je pense un peu plus à la musique que j'entends dans les jeux vidéo. Ça m'a fait un peu comme plus porter attention à ce que la musique me fait ressentir quand je joue à un jeu vidéo. Tandis que, tu sais, comme des fois, je l'écoute, mais tu sais, je suis pas full engagée dans la musique, je suis plus dans l'histoire, mais là, je suis comme un peu plus... Il y a quelque chose qui se passe. De la musique.
Oh, j'ai un guidi, là. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça.
C'est ça.
Mais bref, Raph, pour vrai, c'était une super belle idée. Tu nous as comme remis dans notre mémoire, puis on a traversé des choses. Tu nous as fait un beau voyage.
C'est comme un beau compliment. Hein.
Vous avez monté un beau grand bateau.
Un beau grand bateau.
Ouais. Ben oui, écoute, je sais pas qui aurait pu dire ça par le passé. Mais oui, effectivement, je crois qu'il faut il faut penser davantage peut-être à la musique. Il faut dans les jeux vidéo du moins. Puis c'est quelque chose qui est important. Puis il faut en parler. Puis souhaitons que ce soit le premier d'une série d'articles sur l'aspect musical de l'univers vidéoludique. Donc Si vous avez des idées ou des suggestions à nous faire part des trucs dont vous aimeriez que l'on parle au niveau de la musique ou de n'importe quoi d'autre, là, faites-nous signe de ce côté-là.
Ben oui, totalement.
Ben merci beaucoup, Raph, pour ce beau moment.
Ben merci à vous autres.
Donc, on vous le rappelle, ce podcast est enregistré en direct sur notre page twitch.tv/paysurstart. Raphaël, Kaz, merci énormément d'avoir été là.
C'était... Merci à toi, Christine.
Merci à toi.
C'était un beau podcast rempli d'émotions, je crois, sur lesquelles ouais. On s'est...
On est émotifs aujourd'hui, je le sens, je le sens.
Moi, je pense que c'est la météo qui nous fait...
C'est l'automne,
ouais,
ben oui.
La météo, c'est l'automne, il fait gris.
Novembre s'en vient, là.
Toujours nostalgique.
Jamais facile.
Alors, vous pouvez nous suivre sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Vous pouvez nous écrire sur Discord si vous voulez nous jaser à 9:50. Kasi est toujours debout, on ne sait pas pourquoi. Pas de coucher,
à 3h du matin, puis là, je suis comme « Hey, regardez, j'ai trouvé un mime très drôle. » Je parle du mime pendant 4 heures, là. C'est moi.
Peux-tu dormir à place, s'il te plaît? On s'inquiète.
pas les seuls.
Vous pouvez aussi écouter notre podcast en différé sur toutes les plateformes de balado-diffusion, dont Cube, et ainsi que Spotify, Stitcher, et etc. Et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires aussi sur les épisodes. Plus de commentaires on a, plus on s'améliore. C'est très important. Et bien sûr, si vous avez d'autres suggestions ou commentaires pas de plaintes, parce que c'est pas cool.
Je veux pas savoir vos plaintes.
On n'en veut pas de plaintes. info@paysurstart.com. Si vous avez des plaintes, vous pouvez écrire au email de la Maison Blanche Trump. Il va répondre à vos plaintes avec plaisir ou pas.
Via Twitter,
bien sûr.
Ouais, c'est ça. Privilégié Twitter.
Alors, merci énormément d'avoir écouté l'épisode de Paysurstart et on se retrouve la semaine prochaine pour jaser de Borat. On va jaser de Borat la semaine prochaine. C'est très important. Bye!
Mission Borat. Bye!